When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale qui nous vient d'Haïti. Je suis super contente de l'avoir en face de moi et ça internationalise le podcast, donc c'est génial. Du coup, bah, je vais te laisser te présenter. Je pense que tu es la meilleure personne qui pourra se présenter avec tes mots. Qui es-tu, Gaëlle?
Bonsoir, Tsipora. Et puis, je dis bonsoir, enfin bonjour et bonsoir à tout le monde. Et merci de m'avoir invitée. Je suis honorée. Déjà, quand j'ai appelé ma copine Fania Noël, j'ai dit « Écoute Fania, je fais une chronique sur la maternité et tout. Va écouter Tsipora !» Elle m'a envoyé des liens et tout. Et j'ai écouté, c'était très bien. J'ai écouté les autres intervenantes. Et moi, je trouve que c'est une nécessité de parler de ça aujourd'hui dans la société, de dire qu'on a le choix. Alors, pour me présenter, je suis comédienne, humoriste. Je suis dramaturge aussi, je suis metteuse en scène et je suis journaliste. J'anime une chronique politique avec humour sur Aïbo Post, un média en ligne, et je travaille à Radio Aïbo. Je suis dans les médias aussi, médias et sur la scène. Je fais partie d'une organisation féministe, Neges Mahon.
Oui.
Et puis, j'ai mis sur pied une école de formation d'acteurs en Haïti, la seule école en ce moment de formation d'acteurs. Voilà, donc je suis ici en résidence d'écriture. J'étais censée rentrer au pays depuis avril, faire Limoges fin février, mars, tout le mois de mars et venir à Paris en avril. Oui. J'ai été confinée à Limoges et j'ai beaucoup bossé.
Ouais.
J'ai procrastiné à mort. J'ai mangé du chocolat comme pas possible. Mais j'ai fait du sport, j'ai bu beaucoup d'eau, j'ai lu et j'ai continué à bosser sur plusieurs textes, notamment, et sur les sujets qui me mangent en ce moment. Par exemple, Que ton règne vienne, qui est le premier texte, ce texte pour lequel j'ai eu... Enfin, on a accepté ma candidature à cette résidence à Limoges, où je parle de féminicide, mais du point de vue de deux hommes, en fait.
Ah.
Et le deuxième texte qui sera monté tout de suite, là, une fois que j'arrive au pays la semaine prochaine, c'est Transit.
D'accord.
C'est parler du départ. C'est ce besoin d'habiter quelque part.
Oui.
Ce besoin de partir. Les Haïtiens, enfin, beaucoup d'Haïtiens laissent le pays ces 10 dernières années.
Oui.
Plus, en fait, le flux migratoire a commencé franchement dans les années fin 50. Mm-hmm. Vraiment fin 50, 60.
Oui.
Mais après 70, 80, beaucoup de boat people.
Mm.
Je pense que le mot boat people est venu dans notre vocabulaire à cette période-là. Il y a beaucoup de misère et tout. Et donc, je voulais travailler sur Transit et mettre mes personnages devant l'ambassade, devant une ambassade du Brésil.
D'accord.
Et parce qu'en fait, ils tentent beaucoup le sud en ce moment-là. C'est hyper compliqué d'aller aux États-Unis, au Canada, comme autrefois. Donc, les Haïtiens tendent vers le sud, vers cette langue qu'on ne connaît pas. Quoi.
Ouais.
Vers cette langue, vers le portugais.
Oui.
Le Brésil, c'est...
Portugais,
oui. Oui, c'est le portugais, vers l'espagnol.
Oui.
Et c'est quand même bizarre parce qu'on est très isolés sur le plan linguistique. Ça, c'est intéressant pour moi dans ce texte.
Oui.
On parle français.
Mm-hmm.
Et à côté, en République dominicaine, on parle espagnol. À Jamaïque, on parle l'anglais. On est vraiment très... Enfin, quand un Haïtien se lève et se dit « Ok, je me casse
»,
déjà, il va vers l'inconnu tout court vers une langue qu'il ne maîtrise pas.
Ouais.
Ça, c'est beaucoup de courage et je voulais aborder ce départ. Le pays est en crise pendant 2 ans. Et bon, comme je t'ai dit off-micro, je pense que j'ai fini avec mes 2 textes. Il faut que je peaufine et je suis sur autre chose aussi, sur un court-métrage sur les règles et un autre monologue.
Waouh. Comment tu fais tout ça? Je veux ton organisation, c'est génial.
Je ne suis pas du tout organisée. Heureusement qu'il y a un notepad sur mon téléphone et du coup je peux. Là j'ai la flemme. Tu sais, j'ai la flemme d'ouvrir l'ordinateur.
Ok.
Mais ouvrir, rien que l'ouvrir, entrer mon mot de passe, attendre de voir l'écran, d'aller sur Word. Moi, je me couche, j'écris. Et tu sais, des fois, j'écris plein de choses j'envoie ça par mail. Oui. Je m'envoie ça par mail, j'ouvre ça sur mon ordinateur.
Ouais.
Et je trouve que j'ai beaucoup de choses et je me couche et j'écris. Donc, je ne suis pas du tout organisée, du tout, du tout. Mais je suis beaucoup dans la spontanéité. Quand D'accord. je veux dire quelque chose,
ça
je
sort
le
et ça vient facilement. Ouais. C'est super intéressant, en tout cas. On va peut-être en parler tout au long de l'entretien, mais déjà, bravo pour tout ce que
merci,
tu fais.
Merci.
Alors, on va faire un petit saut dans le temps. Donc, tu as parlé d'Haïti. Mmh. Donc, toi, tu es né en 87.
87.
Et du coup, comment c'était ton enfance à Haïti?
J'ai eu une belle enfance. Mmh. J'ai eu des parents mariés, unitraditionnels, quoi.
D'accord.
Une famille assez spéciale, dans la mesure où mon père est réalisateur. Il a fait du cinéma dans le temps. Et ma mère, magnifique, je pense qu'elle est responsable de ce que je suis aujourd'hui, dans la mesure où elle ne m'a pas imposé des choses, quoi. Je pense que mon papa, par exemple, me pressure plus pour avoir des enfants que ma maman.
Oui.
Et ma maman me laisse. En fait, ma mère est en train de m'observer, quoi. C'est comme j'ai pas eu le choix. Enfin, j'ai pas pu faire. J'ai pas pu choisir. J'ai pas pu faire. En fait, elle voit que j'ose des choses.
Oui.
Et même si elle n'aurait pas pu les faire, mais elle aime bien que je tente. Elle aime bien. Ah non, j'adore.
Que tu te mettes pas de barrière, en fait.
Oui, mais ça, je te dis là, c'est pas un débat que j'ai avec elle. Je le sens.
Ouais. Ouais.
Dans son silence, dans cette manière complice de me laisser partir vers l'avant, ramasser ma jupe et passer mon chemin. Ouais. Quoi. Elle aime bien ça. Je vois qu'elle aime bien ça. Et du coup, j'ai été chez les sœurs.
D'accord.
Il faut que j'en parle.
Oui, quand même.
Alors, petite éducation stricte qui m'impose les bonnes manières et la langue française. Vraiment, c'était l'horreur. Ah non, on me punissait pour parler le français et tout.
Ah
enfin,
ouais.
C'est les choses qui m'ont manqué chez les sœurs. Et en même temps aussi, chez les sœurs, j'ai connu la sororité avec les filles. On n'était que des filles.
Ouais.
Et mes meilleures amies étaient avec moi chez les sœurs, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que, ouais, mes meilleures amies. Il faut qu'on arrête de dire que les femmes ne peuvent pas être amies. Oh oui, j'aime mieux être amie avec un gars, blablabla. Non, non, non. Moi, j'ai des copines, moi, j'ai des filles extraordinaires. On s'engueule, on s'aime, on est là l'une pour l'autre. J'ai Laurie, Vanessa Laurie, j'ai Pascal, j'ai ces filles-là, elles sont dans ma vie, mais depuis plus de 10 ans.
Wow.
Et
vous êtes soudées, quoi.
Oui, 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 oui. Et ça a commencé depuis qu'on était à l'école, surtout avec Laurie.
Ouais.
Parce que, à chaque fois qu'on me dit que les filles ne peuvent pas s'entendre, je revois toute cette organisation quand on était chez les sœurs, de cette manière. En fait, les êtres humains, c'est compliqué. Que vous soyez un groupe de filles ou de garçons, c'est compliqué. Il y a les enjeux, les intérêts, pour faire un comité de classe, pour organiser quelque chose. On ne fait pas tous les mêmes choses.
Effectivement.
C'est-à-dire qu'on ne va pas me dire que les filles ne peuvent pas se mettre ensemble. On a fait de belles choses chez les sœurs. Outre l'éducation catho qu'on me donne et qui m'a un peu isolée par rapport à ce que j'étais comme haïtienne, comme peuple. Je pense que les écoles en Haïti, catholiques ou pas, isolent les petits haïtiens de ce qu'ils sont, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un gros silence sur le vaudou, il y a un gros silence sur cette culture, sur folklore. Je pense que les filles, nous dansons à l'école, nous faisons des choses dans ce folklore, mais pas trop, tu vois. Tu peux faire du théâtre, mais...
Pas trop s'exprimer.
Oui, être dans ce truc du vaudou, pas trop. Moi, il y a Antigone.
Ouais.
Il y a Félix Maurice Auleroy qui a adapté Antigone en créole.
D'accord.
Le gars. Il a transposé les réalités, toutes les divinités d'Antigone en français.
Ouais.
On a mis, c'est du vaudou et c'était trop bien. Et il y a je l'ai monté, ça fait 3 ans, je l'ai monté avec une troupe. Enfin, je dirigeais la troupe de l'école il y a 3 ou 4 ans, je pense. Et les filles ont joué Antigone.
Wow.
Et la sœur, elle a vu, il y avait du vaudou sur la scène, les jeux et tout. Elle me dit, j'aime la pièce, je trouve qu'elle est bien, la pièce, mais tu sais. Tu sais. Je sais quoi, sœur Yvose. Je n'ai pas de problème. Je sais que c'est de l'or, mais...
J'adore ne pas le dire, mais voilà.
Ouais, 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 tu vois. Et j'ai dit, mais c'est important d'en parler parce que c'est notre culture.
C'est clair.
Je suis contente que c'est une école catholique qui s'occupe de l'éducation des enfants, mais en même temps, ne serait-ce que pour les informer de ce que c'est.
Qu'ils le sachent,
Le sache. Mm. On ne sait même pas ce que c'est qu'un vévé. Mm. Les enfants voient le vévé, mais en fait... On ne sait
quoi,
pas.
Peut-être pour l'expliquer aux auditrices, auditeurs.
Alors, le VV, c'est un symbole. Mm-hmm. Et par exemple, là, derrière ma veste, il y a Erzuli.
Ouais.
Je pense que c'est Frida.
Non. Bah, dommage pour ceux qui ne sont pas sur la vidéo. Venez sur YouTube. Waouh, c'est super
ça,
beau.
C'est, non, ce n'est pas Frida, c'est Dantor.
Ok.
C'est Dantor, oui. Et là, c'est mon tatouage, c'est l'Egba.
Waouh, c'est hyper beau.
Oui. Et en fait, c'est les symboles pour les divinités et c'est très beau.
Mm.
Mais avant une cérémonie, on les trace par terre avec de la poudre. C'est bien fait, c'est artistique. Ouais. Il y a beaucoup de stylistes qui ont récupéré ça, qui ont fait des sacs, qui ont fait plein de choses avec ça.
Mais est-ce que ça a été reconnu ou c'est de la réappropriation
Moi, je pense que c'est les deux parce que les artistes qui vont vers ça, je pense souvent, hein, pour moi, les artistes que je connais, il y a quelque chose vrai qui va vers ça aussi.
Oui.
Après, on récupère ça parce que c'est quelque chose à nous qu'on ne trouve pas ailleurs.
Oui.
Bon, oui, on trouve ailleurs. Disons qu'il y a le vaudou au Bénin, par exemple, parce qu'on est. Mais Haïti, c'est une partie de l'Afrique de l'Ouest qu'on a transportée. Donc, je pense qu'on peut trouver plein de similitudes dans les choses, mais c'est quand même extraordinaire pour ça. Ça a traversé le temps, je ne vais pas dire intact, mais ça a résisté.
Oui.
Ça a résisté à la colonisation, ça a résisté aux occupations, notamment l'occupation américaine qui a vraiment fait le gros bordel entre 1915 et 1934, les Américains, franchement. Donc, ils ont bien bossé. Ils ont fait la guerre, vraiment, ils ont fait la guerre au Ougan. Ils sont venus évangéliser. Putain, les gars, ils sont venus, ils nous ont donné la Bible, ils ont pris la terre. Ah non, c'est n'importe quoi. Et du coup, il y a quelque chose chez les auteurs, chez les stylistes, chez les artistes, qui c'est un truc qui va vers ça. Pour d'autres, tu peux voir que c'est pas très sincère, tu vois, c'est un truc que... Mais pour beaucoup...
Ça reste quand même très...
On se retrouve là. En tout cas, moi, en tant qu'artiste, je trouve que dans le vaudou, il y a des divinités femmes. So, excuse me.
Tu prends.
Il y a plein... Mais vraiment au même niveau, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, il y a Erzuli, il y a Ogou. Il y a vraiment quelque chose qui est très, très bien équilibré.
Ouais.
Et elles sont fortes. Il y a les prêtres vaudou et des prêtresses vaudou.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a un Ougan et une Mambo.
Que tu retrouves nulle part ailleurs.
Oui, ça me fait du bien d'avoir une religion. Et c'est encore plus... Le vaudou, c'est plus que de la religion. C'est une manière de vivre.
Oui, c'est une façon de vivre. Il y a tout plein de codes à respecter.
C'est une vision du monde
aussi.
C'est
ça, ouais.
Voilà.
C'est super beau. Et du coup, comment c'était pour toi de vivre parce que c'est comme une sorte de... C'est comme être schizophrène, entre guillemets, parce que t'es entre deux mondes. Est-ce que t'avais quand même le lien, par exemple, tes parents, est-ce qu'ils étaient plutôt
Là, mon père ne me parle plus parce que je me suis tatouée. Ah oui.
Ah oui.
Ah oui. Il est très fâché que j'ai fait le tatouage de l'Igba.
Ah ouais.
Alors que l'Igba, j'aime beaucoup. Alors, l'Igba, c'est le dieu des barrières. C'est
d'accord.
Lui qui laisse passer.
Ok.
Et j'aime bien la philosophie de l'Igba, j'aime bien... Ah, j'aime beaucoup, beaucoup.
Mm.
Et en ce moment, je suis très proche de ça. Je me pose plein de questions et je me dis pourquoi pas.
Oui.
Pourquoi pas savoir ce qui se passe. Pourquoi pas me renseigner. Pourquoi pas ne pas faire ce que les bonnes sœurs auraient... Mais dans un cours d'histoire, je me dirais que c'est légitime.
C'est clair, c'est votre histoire, c'est vous, c'est... Ça fait partie de vous, en fait.
Ça fait partie de nous, oui. Et je comprends, quoi. C'est la chrétienté, c'est Jésus-Christ. Et là, en ce moment, mon papa, ça le dérange vraiment très, très fort. Ma mère s'en fout.
Ouais.
Elle s'en fout, mais elle s'en fout tellement. Après, elle n'aime pas les tatouages, tu vois. Elle pense que ça ne sert à rien d'écrire des choses sur soi. Après, ça va, quoi. C'est, ouais. Elle ne le ferait pas, mais moi...
Oui, elle se dit, bon, tu l'as fait, voilà, c'est ton corps, voilà, mais moi, je ne l'aurais pas fait, quoi.
C'est fini, sens, ouais. C'est fini. Mm. Donc, il y a quelque chose de vers que le vaudou... Mm. Les gens ont peur du vaudou.
Ouais.
Les Haïtiens ont très peur du vaudou. Donc, il y a Jésus-Christ, il y a Dieu, l'univers, il y a l'enfer, il faut éviter l'enfer, et le vaudou, pour eux, c'est pour plein d'Haïtiens, malheureusement... Mm. C'est le diable, c'est... Et ça, c'est un héritage colonial.
C'est clair. C'est ancré, du coup, dans leur tête.
C'est ancré. Après, la vérité, c'est qu'il y a plein d'Haïtiens qui disent qu'ils font pas de vaudou, mais quand ça ne va pas, qu'ils vont voir un prêtre. Tu vois, c'est des choses, c'est des pratiques qu'on veut clandestines. On sait bien. Parce qu'en même temps, tu t'imagines que tu interpelles le Dieu, il se manifeste sur quelqu'un. Mm. C'est concret. Donc, ouais. Tu peux parler avec Erzuli, ouais. tu invoques ton Dieu. Par exemple, aujourd'hui, c'est le jour de Ogou. Mm. Le mercredi, c'est pour Ogou. Tu interpelles Ogou et le gars, il arrive. C'est la force, c'est le feu. Et puis le père. En fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que je pense que depuis un moment, le vaudou m'intéresse.
Oui.
Je suis venue à Liège. Mm. Entre 2010 et 2016, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup bossé dans le Conservatoire Royal de Liège. Oui. Et en fait, on a travaillé sur l'ethnodrame, théâtre et rituel. Mm-hmm. Et on est revenu sur ces choses-là, sur les travaux de Jerzy Gotowski. Mm-hmm. On est resté beaucoup sur ce que Franck Fouché disait, mm-hmm. sur le théâtre et comme espace théâtral. Mm-hmm. Et quand, par exemple, dans le Honfort, mm-hmm. l'espace où les pratiquants vaudou fêtent, dansent, ouais. c'est beaucoup de danse aussi, c'est trop beau. Mm-hmm. Attends, mais tu vas célébrer des dieux et tu vas danser. Et ouais. la danse vaudou, et les rites sont mm-hmm. très, très, très beaux. Ouais. Dès que le gars, il tape sur le tambour,
ça y est.
Tu ne réponds plus de toi. C'est bon, là.
T'es parti.
Oui, et que tu sois kato ou
ça te touche.
Ça te touche, justement. Justement. Et donc, Franck Fouché parlait de cet espace théâtral, le Honfort, déjà le lieu. Mm. Et c'est en principe, les gens sont disposés en cercle.
Oui.
Et il y a le poteau mitan au milieu.
D'accord.
Au milieu. Et il y a toutes les couleurs. Les couleurs correspondent au dieu. Enfin, chaque dieu a sa couleur. Chaque divinité a sa couleur.
Oui.
Et par exemple, Ogou, c'est le rouge. Mm. Tu vois. Et puis chaque à sa manifestation. C'est-à-dire que quand Ogou vient,
oui.
il gueule, il est fâché, il est en colère. Et ça, pour quelqu'un qui étudie ça du point de vue artistique, c'est un personnage. Quoi. Mm. C'est-à-dire que sur la scène, si un comédien fait Ogou, fait celui qui est possédé par Ogou, je pense que tous les gens dans la salle sauront que c'est Ogou. Tous les gens, dès que ça vient,
ouais.
et puis ça, pff, ça boit du clairin, de l'alcool, ça. Mm-hmm. Pff, ah tout le monde sait que c'est Ogou.
Ouais.
Quand c'est si Erzuli, tout le monde sait. Quand c'est Guédé, tout le monde sait. Alors il y a des dieux qui sont des divinités qui sont plus compliquées, qu'on connaît moins en fait.
D'accord.
Il y a quand même plus de 200. Hein.
Ah oui, quand même.
Ah ouais.
Mais c'est quelque chose que tu as appris sur le tas, du coup ?
Sur le tas.
Ok.
Sur le tas. Je suis curieuse, quoi. Ouais. J'ai été chercher, j'ai été...
Mm. Parce que ça t'a marqué, en fait.
Mais j'ai des copines, j'ai des amies qui sont vaudouisantes.
Waouh. C'est pas des copines qui étaient...
Non, okay. non, c'est des gens que j'ai rencontrés, que la vie a mis sur ma route,
oui.
que j'aime beaucoup, qui sont magnifiques. Et je me suis dit, mais... Comment quelqu'un comme ça, parce qu'on m'a vendu le vaudou comme étant quelque chose de...
D'austère, de très mauvais, voilà.
Mais ce sont des gens avec beaucoup de sérénité, quoi, les gens que je connais.
Ouais.
En plus, après, il y a plusieurs types de vaudouisants comme il y a plusieurs types de chrétiens. Il y en a qui sont très dans l'excentricité, quelque chose de démesuré,
oui, ouais.
des deux côtés. Hein, ouais. Ce sont les êtres humains
oui,
qui pratiquent.
Oui, c'est ça. Donc, tu as une palette, en fait.
Une palette. Il ne faut pas me faire croire qu'ils sont... Voilà. Donc, j'ai appris tout ça sur le tas. Famille très ordinaire, classe moyenne. Mmh. Et papa chrétien comme pas possible.
Et tu as pas de frères et sœurs?
J'ai un petit frère.
D'accord.
J'ai un petit... Mais lui, il s'en fout.
Il vit sa vie.
Il vit sa vie sans aucune religion. Mais là... Aucune... Il n'est pas de la recherche, il n'est pas de...
Nah. Ouais, il est tranquille, quoi.
Il est tranquille.
Et du coup, en tant qu'aînée, c'était comment d'être la grande sœur? Tu étais du coup au couvent et donc tu n'as pas grandi avec ton frère aussi?
Non, j'étais chez... avec mes parents, j'allais à l'école.
Ah, et tu rentrais tous les soirs?
Oui, je rentrais.
Soirs.
Oh non, c'est pour vivre avec
les dames.
Parce
que moi, je voyais...
Déjà toute ma vie, avec mes 14 ans de scolarité avec elle, c'était trop, quoi.
Ouais.
C'était trop.
Ouais, 14 ans.
14
quand même.
Ans, mon Dieu. Je n'en pouvais plus. Je sais que Sœur Yolaine va écouter le podcast. Elle va dire les grattes. Mais c'était trop. En tant que grande sœur, dans une famille traditionnelle, mais mon papa a fait comme tous les papas. Mm-hmm. Il m'a élevée comme une fille, élevé mon frère comme un garçon. Ça m'a trop fait chier.
T'en étais consciente du
Mais
coup.
Bien sûr, parce qu'il est plus petit que moi de 2 ans.
Ouais.
Comment peux-tu apprendre à conduire à mon petit frère avant moi?
Oui, ouais. C'était des actions comme ça où c'était grillé, quoi.
Pourquoi tu sors, soi-disant, vous allez jouer au foot? Pourquoi tu sors? Emmène-moi. Ouais. Je pense que j'ai une aversion pour le football à cause de ça. Mon père, il adore le foot. Mmh. Et mon petit frère, c'est le genre qui s'en fout. Tu l'emmènes pas, il s'en fout.
Ouais.
Et je voyais, tu vois, l'intérêt qu'il avait d'insérer mon frère dans des trucs d'hommes. Et mon frère, il s'en foutait, le petit. Tu vois, et moi, je voulais bien te suivre. Mmh. Je voulais bien. Je n'aimais pas rester à la maison. Ouais. Et quand t'es une fille, tu dois rester à la maison.
C'est ça.
C'est mon petit frère. Il arrivait et on lui dit, mais t'étais où? Moi, je sors. Mais tu vas où? On ne sait même pas quand il est sorti. On ne sait même pas. Et ça, je l'ai compris. J'avais 14, 15 ans, j'ai compris qu'il y a un truc qui n'avait pas de sens.
Ouais.
J'ai insisté pour qu'on m'apprenne à conduire. J'ai insisté, j'ai dit, c'est pas possible.
Ouais. T'as bataillé. Puis
ah oui. Et puis en plus, bon, après, j'étais une adolescente. Je vais dire, est-ce que je peux dire complexé? J'avais quelque chose.
T'étais pas full, enfin, tu te bridais un petit peu, t'étais.
J'ai très distraite, très lunatique, je peux dire. Je flottais un peu. Les ados, les filles à l'école à l'époque, elles étaient dans un autre délire. Hein. Ouais. Moi, j'étais dans la poésie à l'époque.
Ah ouais?
Ah ouais, j'écrivais des poèmes.
Ah déjà, t'étais déjà dans la créativité.
J'étais dans la créativité, full.
D'accord.
Full. Et je pense qu'il y avait quelque chose qui m'obligeait à aller vers là parce que bon, j'ai toujours fait j'ai toujours été en surpoids.
Ouais.
Y avait quelque chose, j'avais pas un rapport avec mon corps.
D'accord.
Comme mes copines. Et je pense que j'ai... Même sexuellement, hein, ça a commencé super tard. Alors super tard, 18 ans quand même. Et j'ai insisté. J'ai un ami, j'ai dit, écoute, on le fait. Arrête tes conneries.
On là, le ça fait. Y est, il oui. est temps, 18 ans.
J'étais contente. J'ai pris l'initiative, tu vois. Et contrairement à des copines qui ont dû le faire, comme si... Tu vois cette pression quand t'es jeune, t'as un petit copain et le gars, lui, il doit prouver quelque chose dans son clan d'amis, il doit le faire et tout. Moi, j'étais pas le cas.
Que c'est toi qui as imposé, limite.
Ah oui, j'ai dit oui, il faut qu'on le fasse. Arrête de déconner là. Tu fais le bon gars. Non. Et donc, je pense que le fait que mon papa m'a... C'était vraiment, c'est comme la petite poupée, quoi. Ça me saoulait de ne pas pouvoir être dans... Enfin, de faire des trucs que je voulais bien.
Ouais.
Et en même temps aussi, je pense que mon papa, il me laissait sortir, mais ça avait beaucoup de contrôle.
D'accord.
Tu vois, c'est beaucoup de contrôle.
Tu te sentais pas libre, en fait.
Non. Et puis bon, après, ça ne m'intéressait plus de sortir.
Ouais, d'accord.
C'est-à-dire que je restais chez moi, j'avais un ordinateur, tu sais, le gros ordi d'antan. Avec le cul.
Le gros cube, là.
Ça encombre la table, mais bon Dieu, avec un gros clavier, une souris. Et j'écrivais beaucoup. Et mon adolescence était vraiment bien calme.
Ouais.
J'avais pas d'autorité sur mon petit frère, dans le sens que j'avais pas ce rapport-là avec lui, que c'est mon petit frère. Non.
tu le voyais pas comme ça, c'est, vous étiez à égalité quoi.
Mais mais mon papa, comme il ne m'a pas donné cette autorité sur mon petit frère en tant que fille.
Ouais, donc ça vient de là en fait.
Oui, aussi, c'est-à-dire que j'avais pas l'impression que je devais veiller sur lui. C'est quand il franchissait la barrière, moi je m'en foutais. J'avais pas à dire, mais où est-ce que tu vas? On me demandait pour lui, je disais que je ne sais pas, et puis personne n'était paniqué. D'accord. Alors que moi, on ne me voit pas. Gaëlle,
où es-tu?
Je suis dans ma chambre, oui, présente. Je suis couchée, je lisais, papa. Hein? Je peux? Donc, c'était ça, mon adolescence. C'était ça. Ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Un petit peu. Je prends des libertés.
Oui.
Il le faut.
Mais c'est intéressant parce que du coup, tu as réussi quand même. Enfin, je veux dire, qui l'eût cru que, en ayant étudié, tu vois, avec des sœurs, en ayant un papa un peu strict, que tu sois là, artiste, tu vois, à faire ce que tu veux, voyager où tu veux. C'est beau quand même.
Oui, je suis contente.
Franchement.
Je suis très contente. Parce que, déjà, mon père, il faisait un truc, c'est qu'il mettait mon petit frère dans ses films et pas moi.
Ah ouais?
Je pense que j'ai un petit rôle, tout bête. Il me dit, oui, mais toi, t'es une fille, tu fais un truc spécial, je vais t'écrire un scénario. I was like, daddy, please. Et je pense que j'ai commencé à faire du théâtre parce qu'il y avait une grosse frustration en ce sens-là. J'ai commencé à faire du théâtre parce qu'il y avait une sœur, une directrice sur My Rose, qui est à Paris et que je dois voir avant de rentrer. Au moins lui parler. Sur My Rose a compris en tant que pédagogue et psychologue qu'il fallait me donner beaucoup d'espace pour que cette créativité là elle a une intelligence. Moi l'école ça me faisait chier et du coup de manière sur le plan académique je posais beaucoup de problèmes et les professeurs ne comprenaient pas que sur My Rose veuille que je ne refasse pas de la classe Il dit, mais cette fille est brillante. L'école l'embête, en fait. Ce système scolaire l'embête. Nanana. Et je pense que c'est grâce à elle que j'ai beaucoup fait de théâtre. Parce qu'il y a l'auditorium de l'école qui pouvait avoir, contenir 500 personnes. Et j'ai fait du théâtre. De la troisième, j'ai fait du théâtre. Après la philo, j'ai fait le conservatoire avec mon prof, Daniel Marcelin. Mais j'ai fait du théâtre pendant l'école. Et je m'évadais, j'écrivais des sketchs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, je voulais être sur scène parce que je voulais qu'on me voie. Et c'était une manière d'affirmer ce grand corps, ce gros corps, tu vois. Je prenais de l'espace et j'avais confiance en moi. Oui. Et ce corps-là, je pense que le théâtre m'a aidé à le sauver dans la mesure où je n'entrais pas dans la beauté. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et au moment où j'ai commencé à faire du théâtre, à me mettre sur la scène, et je sentais que je prenais beaucoup de place.
Oui.
Et ça m'a fait du bien. C'était un pouvoir, en fait. J'avais 15-16 ans.
Wow.
À 18 ans, en philo, quand j'ai dit, OK, il fallait que je fasse la troupe mixte, j'ai été prendre des gars dans d'autres écoles, des amis. Et j'avais accès à ça sans me faire jolie, sans, tu vois, j'avais pas à être cute, à être... Non, j'étais la fille qui fait du théâtre chez les sœurs à Bourdon. Et donc, les gars, il y a Gaëlle qui fait une pièce, nanana. Et je pouvais rassembler des gars, quoi.
Ouais.
Enfin, les filles, les autres filles, pour rassembler les gars comme ça.
C'est pas les
mêmes méthodes. Je pourrais rassembler tout le monde et de beaux garçons, en plus, quoi. À un moment, je ne gérais plus la troupe. Tu comprends, Sébora? J'étais dépassée par les événements. Et quand je pense que j'ai promis à Sœur Marie-Rose de ne pas la laisser s'aimer, je ne sais pas comment j'allais faire. Et vite, tu sais que les filles et les garçons, elle a beaucoup hésité. J'ai dit, Sœur Marie-Rose, je vais faire une troupe. Je vais faire une troupe mixte. Il y en a marre qu'on joue le rôle des garçons, c'est pas possible. Bon, moi, j'ai toujours joué le rôle des garçons. Moi, j'en ai marre. Et puis, elle réfléchit. Il y avait Sœur Cécile qui était là. Cécile, t'en penses quoi? Cécile, je dis ça. Et bien après, on a eu la troupe mixte. Pense que, tu vois, même si j'ai un problème avec l'éducation catholique et tout, j'ai eu la chance de trouver des personnes.
C'est ça. des alliés, des sur alliés qui te reposer,
me reposer et tout. Et je comprends parfaitement s'ils avaient, si elles ou ils avaient des retenues par rapport à des choses. Oui. Culturellement, c'est compliqué quand tu as été colonisé.
C'est ça. Il y a plein de trucs à déconstruire déjà.
Il y a plein de trucs à déconstruire. Ouais.
Et à l'époque, en plus, on n'est pas, c'était pas en 2000, enfin, je sais pas, c'était si
ouais,
en
c'était,
2000, quand même.
C'était, ouais, c'était 2003.
Ok.
2003-2004.
Mm. Mais c'est super intéressant. Tu vois, j'apprends aussi, à travers ton récit, l'histoire, parce qu'on a une image d'Haïti en France qui est quand même assez... voilà, elle est super négative et c'est chiant, tu vois. Et j'aime bien aussi avoir, tu vois, ton histoire à toi qui est différente d'une autre personne d'Haïti, tu vois, c'est beau. Et de voir aussi que bah, j'aurais pu vivre la même chose, en fait. J'aurais pu, moi aussi, me retrouver dans une école catho, j'aurais pu avoir un père strict, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Ouais. Et au final, on est là, toutes les deux, à discuter.
Oui. Ouais. Et en plus, en tant qu'artiste, je pense que je parle de sujets que les artistes ici abordent, les artistes femmes ici abordent. C'est le moment, hein, c'est... Enfin,
il y a une vague là.
Oui, nous vivons une époque où, même s'il y a des différences, enfin des particularités relativement ou le lieu où tu te trouves. Ouais. Mais je pense qu'être une femme en 2020, c'est quand même. Il y a des avancées, mais.
Ça reste encore
mes
compliqué.
Amis.
Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai.
Ça reste compliqué et. Moi, je regarde beaucoup d'humoristes. L'humour américain, c'est mon humour préféré. Je regarde beaucoup, beaucoup d'humoristes. Mm. Et en ce moment, les femmes parlent de ce que moi, je pourrais parler. Mm. Après, mais j'ai oublié le nom de cette dame. Elles sont deux.
Ouais.
Elles parlaient d'avortement. Mm-hmm. Et j'ai dit, mais je ne pourrais jamais faire ce sketch chez moi. Bon,
tu risques d'avoir de gros problèmes.
Je pense que j'ai parlé d'avortement dans une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Talon d'aiguille, Talon d'Achille.
D'accord.
Et j'ai été obligée de le mettre dans une espèce de truc musical, très douce, tu vois. Donner la pilule comme ça. Et les filles vraiment parlaient de ces remèdes, de ces plantes médicinales qui...
permettent de...
Ouais. On a appelé ça potion magique dans la pièce.
D'accord.
Et les gens, enfin, je regardais la réaction des gens, ça allait, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'en sont pris, mais c'était donné de manière super douce. Oui.
En fait, tu t'es adapté au public aussi.
Ouais, mais moi non plus, je n'étais pas capable d'aller de manière frontale. C'est-à-dire que même, je veux bien, aujourd'hui, je suis prête pour ça.
Ouais.
Parler de l'avortement de manière très frontale. Il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est les hommes sont les premiers consommateurs d'avortement. Mm. C'est eux qui te donnent les sous pour aller avorter. OK. Et ils ont une posture par rapport à ça très, très, très hypocrite. Très, très hypocrite. Ça m'énerve.
Ouais.
Je pense qu'une femme a le droit de garder son enfant.
C'est son choix.
C'est son choix. Et aussi, il faut qu'ils arrêtent. Il y a un truc de la bonne femme...
L'image.
Ah, ça me saoule, ça me saoule, tu vois. Je le dis tout le temps. Moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Encore moins si je tombe enceinte et le gars me dit, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, ça peut arriver que je tombe enceinte et le gars, il a l'air, oh mon Dieu, c'est comme la Vierge Marie et tout. Non. Je ne sais pas, peut-être. Il faut que je sente de l'intérêt.
Ouais.
Ça ne m'intéresse pas de faire un enfant seul. C'est moi.
Ouais.
C'est moi, ça ne m'intéresse pas. Et je pense qu'une femme peut dire ça. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un enfant. Oui, tu le fais, mais tu ne sais jamais. Tu le fais si tu, tu sens le besoin de le
Exactement.
Faire.
Exactement. Puis, ce n'est pas un truc à prendre à la légère. C'est un enfant qui arrive. Hein. C'est pas...
Je pense que culturellement aussi, ça, c'est une discussion. Par exemple, chez moi, un enfant, c'est un enfant. Tu fais. On ne prend pas en compte l'humanité du petit
c'est
être.
Ça.
C'est-à-dire que... un truc qu'on dit chez moi, dès qu'il vient ou dès qu'elle vient, il ou elle mangera. De toute façon, si tu manges, l'enfant mangera. Si tu manges, l'enfant mangera. Non!
C'est
pas une affaire.
C'est pas réfléchi comme c'est juste, il est là, on trouvera une solution.
Oui, c'est ça, c'est pas une affaire de manger, c'est pas un petit animal.
Ouais.
C'est pas comme un petit chat, tu fais un bol de lait. Non!
Et ça, tu l'entends souvent, du coup?
Ah oui, oui, là, je me dis... Il y a mon père qui me dit, fais l'enfant.
Et en vrai, on verra.
Donne-moi. Donne-le-moi. Oh, oh, donne-le-moi. Quand je lui tende l'enfant, comme je lui ai tendu le téléphone. Attends que tu élèves mon gosse, papy. Non. Attends. Non. Et ça, c'est quelque chose... C'est un truc que tu dois donner. C'est comme un devoir de maison.
Mais tu vois, c'est intéressant parce que du coup, donc, tu abordes ton non-désir de maternité. C'est assumé.
Oui, c'est assumé.
T'as pas honte à en parler. Et ta famille, du coup, bah, là, ton papa, lui, je pense qu'il voudrait que t'en aies, du coup. Mais en plus, tu es l'aînée, tu es une femme.
Parce que je fais mon intéressant. Il dit que je suis moderne. J'ai dit, papy, la pilule, on l'a inventée, ça fait un bon moment. Hein. Ouais, je l'assume, mais en fait, c'est très compliqué, c'est pour moi, dans la mesure où je suis en couple avec quelqu'un que j'aime beaucoup, ça fait pas mal de temps qu'on est ensemble.
Oui.
Et dans mon couple, l'arrivée d'un enfant ne dérangerait pas, tu vois? En même temps,
ouais.
Je ne sens pas le besoin.
Donc, c'est ambigu.
Oui, c'est ambigu. Ouais. C'est-à-dire que... Il y a un autre problème aussi, je suis dans la militance. Tout court, c'est-à-dire que j'interviens dans les affaires politiques, dans le débat politique sur la place publique. C'est-à-dire que les gens connaissent mon opinion. Je ne suis pas d'accord avec un truc, je le dis sur Twitter. Je fais partie d'une structure... ça s'appelle NOPABDOMI, on est vigilant. Je ne veux pas le traduire mot par mot. Mot à mot, ça dirait on ne dort pas, mais ça veut dire on est vigilant. Donc, c'est un collectif de militants et on est vraiment dans la politique. On a pris naissance en 2018. Okay. C'est une bataille anti-corruption et c'est la première fois que le peuple haïtien est sorti dans les rues contre la corruption. Wow. Et fort. On a fait partie de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que femme, j'ai 32 ans et je me dis dans quel pays je vais mettre cet enfant-là.
Oui, tu as cette réflexion en plus.
Oui, ouais. Où est-ce qu'il va naître, ce bébé?
Ouais.
Quand l'État dilapide l'argent des hôpitaux, l'argent de tout, quoi.
Ouais.
Quand le système de santé est quasi inexistant. C'est compliqué, je ne peux pas faire ça à un enfant.
Ouais. En fait, la notion, donc pour toi, faire famille, c'est d'autant plus réfléchi parce que c'est pas le même contexte. C'est pas comme ici, tu te dis, bon, bah, je fais et puis on verra. Limite ici, enfin, non, je suis pas d'accord avec ce que je vais dire, mais c'est un contexte qui serait beaucoup plus propice, limite, à faire famille, que là, toi, tu dois vraiment réfléchir à chaque composante qui vont faire que la vie de ton enfant sera agréable. En
et
fait.
Pour mon amoureux, je pense que le pays est un point très, très important.
Il est attaché.
Que si moi, en tant que femme, je ne suis pas prête à partager mon corps avec un petit enfant, lui, il ne voit pas où son enfant va naître, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur ça.
D'accord.
On n'a vraiment pas envie d'aller le faire aux États-Unis pour qu'il ait un passeport américain ou d'aller au Canada le faire... On trouve que c'est pas cohérent, en fait.
Avec
ce qu'on voit, c'est pas très cohérent. Et en même temps, on se dit, mais bon, est-ce qu'on ne pourrait pas lui offrir le monde aussi? Mais rien que de faire la réflexion de ne pas faire un enfant en Haïti pour lui offrir le monde, d'aller aux États-Unis, ça nous saoule.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que c'est pas possible. Mon petit frère, il est né... c'est une pratique. En Haïti, les familles qui ont plus ou moins les moyens vont accoucher aux États-Unis. Mon petit frère est né aux États-Unis. D'accord. Il a un passeport américain.
OK.
Et ça me... Je suis pas confortable avec ça. C'est-à-dire que... Et en même temps, l'enfant, c'est ton enfant et c'est toi qui décides. Décider ça, c'est d'une part lui donner la possibilité aussi de mais c'est d'être conscient que avoir un passeport haïtien ça ne veut rien dire être haïtien ça veut rien dire le gars américain il peut voyager dans tous les pays qu'il veut et toi il faut à chaque fois que je viens ici il me faut un visa il me faut à chaque fois mais je viens souvent ici il y a plus de place dans mon passeport. Je dis à la dame ça va pas continuer comme ça.
Il faut faire quelque chose.
Il me dit, oui, mais tu peux prendre un truc pour un an et tout, il faut que tu viennes. J'ai dit, ok. Mais ça ne peut pas continuer. Il n'y a plus de place dans mon passeport, c'est pas possible. Et il faut à chaque fois, à chaque fois que je... Les mêmes... Et ça, ça prouve que tu vis dans un pays qui n'est pas pris en compte ailleurs. Tu as une image dans les yeux des gens, ça m'embête.
Ouais.
Et d'aller faire un enfant ailleurs, c'est vraiment dire, ok, c'est vrai, et je participe de ça.
Ouais, donc t'es tiraillée en fait.
Je suis tiraillée quand même. Je me dis, mais est-ce que je dis, tu sais, si l'ailleurs c'est le Ghana ou le Mali, moi je dis, si l'ailleurs, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on a cette vision américaine ou européenne, tu vois, de la réussite, ce truc. Ouvrir sur le monde, en fait, quand je te le dis, c'est vraiment Canada, États-Unis, France. C'est pas le Ghana.
Ouais. En tout cas, pas dans l'imaginaire collectif, quoi.
Déjà, on nous a coupé de l'Afrique tranquillement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu mets trois visas, tu mets un visa pour un pays de l'Afrique, un visa pour la Chine, un visa pour les États-Unis, ils vont tous courir sur le visa pour les États-Unis.
Ouais.
Le rêve américain, on nous a vendu un.
Bah surtout en
Haïti, liquide, ça doit être en poudre. Tout.
Sous toutes les formes.
Et donc, voilà. Donc, faire un enfant, c'est extrêmement compliqué dans ma tête. Et quand je regarde ma belle-mère, quand je regarde mon papa, c'est pas compliqué dans leur tête.
Ouais. En tout cas, ils ont le schéma. C'est simple comme bonjour.
C'est pas compliqué. Même pour l'école, tu vois, j'ai pas envie de mettre mes enfants dans une école religieuse.
Tu veux pas répéter le même schéma, en fait.
Quelle école, quel pays, où faire un enfant.
Mais du coup, c'est intéressant parce que toi, c'est plutôt la contextualisation qui va jouer sur si tu veux un enfant ou pas. C'est pas vraiment le fait que t'aies envie ou pas envie.
Ouais. Déjà, je n'ai pas envie.
D'accord. Et ça, en plus, ça s'ajoute et tu dis bon là.
Ça ne me manque pas. Tu vois, quand je me lève un matin, tu vois, c'est dans les films romantiques. Je pense à un enfant et je vois des petits chaussons roses ou bleus. Non, je ne suis pas dans ce délire-là. J'avoue que, honnêtement, le couple que j'ai là, le gars avec qui je suis... des fois, je dis, mais j'aurais bien aimé voir la tête qu'il aura cet enfant avec toi. J'aurais bien aimé voir. Et après, ça passe, quoi. Lui, il est photographe. On est deux artistes. Le contexte, c'est ça. On est deux artistes dans un pays extrêmement difficile. Donc, on est déjà des gens précaires. Dans le sens que... Fragiles, quoi. Dans le sens que... on fait des métiers très compliqués dans un pays compliqué.
Ouais. Donc, c'est deux couches...
On ne peut pas faire un enfant dans ce contexte-là. Il faudrait vraiment qu'on change, qu'on fasse autre chose. Enfin, il faut nourrir cet enfant, scolariser cet enfant, éduquer cet enfant dans un pays extrêmement difficile, dans un pays où c'est compliqué. La population a, il y a beaucoup de couches, beaucoup de strates. Tu vois, comme dit une autrice que j'aime beaucoup, Yannick Lahens, la misère n'a pas de fond.
Oui.
Plus tu creuses, plus tu trouves une misère plus que ce que tu connais déjà. Et il y a beaucoup de préjugés. Déjà, l'école est responsable de ces préjugés-là. Dans quelle école tu mets ton enfant. Et donc, là aussi, les camarades qu'ils côtoient. Et les langues maintenant aussi. Autrefois, le français, c'était la langue intellectuelle et tout. Aujourd'hui, l'anglais est venu.
D'accord.
Et ce qui me saoule avec l'anglais, c'est que ça... Comment te dire, c'est pour montrer que tu fais partie d'une classe sociale.
En fait, c'est une langue qui va te permettre de naviguer facilement dans certaines sphères.
Alors que moi, je pense que le gros problème de l'éducation en Haïti, c'est que il faut ouvrir ça sur l'espagnol et l'anglais parce qu'on est vraiment à côté de la République dominicaine, la Jamaïque, on est vraiment à côté de Miami. Ce serait bien que d'ouvrir plus, de bien enseigner les langues déjà. Et ça reste une langue. Et d'être dans ce créole à la base pour que les enfants comprennent les concepts dès le départ. C'est-à-dire que moi, mon petit frère, il a fait les maths en créole et il est vachement mieux que moi. Chez les frères, parce que Il était chez les frères. Ah. Mes parents ont mis le paquet. Allez. Donc, le créole chez les frères de l'institution chrétienne, ils ont pris ça très au sérieux dès le départ. Ils ont fait les trois premières années, ils ont équilibré le créole et le français.
C'est donc bien.
C'est super bien. Et c'est une lutte, en fait. C'était une lutte pour les linguistes depuis les années, fin années 70, oui. pour que la langue créole soit un outil pour l'éducation.
Oui.
Parce qu'en ce moment-là, on a des gens qui comprennent le français plus ou moins. Et tu ne peux pas comprendre une langue plus ou moins quand tu étudies là-dedans.
Non, c'est soit à fond ou soit pas du tout, quoi.
S'ajoute à ça aujourd'hui la nécessité de l'anglais, et l'anglais est devenu, tu vois...
La langue.
Les gens mixent ça, you know, so, but, everything. Tu vois, ça mixe, tu vois, une langue. Et ça aussi, ça me dérange. Ça, c'est des indicateurs. C'est des indicateurs qui te montrent comment la société
évolue
et comment la société creuse.
Oui.
Creuse ces trous entre les gens.
Oui. Les disparités
Vas avoir. Oui. Donc les écoles, les espaces où les gens évoluent aussi, parce que pendant super longtemps, l'État a mis la responsabilité de l'éducation entre les mains de l'Église et les religieux. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. C'est-à-dire que...
Il s'est désolidarisé, il a laissé le truc, quoi.
Il y a une coupure entre ce que tu es en tant qu'haïtien et ce que tu devrais être, en fait, en réalité, vu ton histoire.
Ouais.
Parce que là, il faut vraiment décoloniser, quoi. Il faut vraiment décoloniser tout à fait. Aller partir d'un autre point de vue, là.
Ouais.
C'est dans ça que je suis.
C'est super intéressant. Du coup, toi, autour de toi, donc, je pense que tu t'es naturellement entouré de personnes qui sont dans la même démarche. Mais comment c'est pour un haïtien lambda qui, du coup, n'a peut-être pas eu cette chance, entre guillemets, de se déconstruire? Quel est le niveau, en fait?
Je pense que la déconstruction n'est pas évidente. Je pense qu'il y a des questions qui ne se posent même pas. La question de se déconstruire ne se pose même pas, dans la mesure où, si la personne n'est pas une artiste ou un intellectuel qui est dans la recherche, je pense que ce sont ces gens-là qui sont dans la déconstruction. Après, tu peux avoir le vaudouisant qui, le gars ou la dame... Né de parents vaudouisants, grandit dans un péristyle, va à l'université, donc apporte a une valeur ajoutée, apporte celle qu'elle est ou celui qu'il est dans la discussion, dans l'espace universitaire et ça. Mais nous, chrétiens, avec beaucoup de préjugés, tu vois, parce que... Il y a beaucoup de disparités, quoi. Je pense que la question de déconstruction ne se pose pas pour le citoyen lambda.
D'accord.
Artiste, intellectuel.
Ouais. Et du coup, là, je bifurque sur les femmes de manière générale, parce que du coup, tu es très... Moi, je comprends pas le créole, mais j'ai essayé d'écouter certains de tes sketchs. Et c'est vrai qu'il y en a un sur la maternité, tu en as un sur le mariage. Comment c'est... Enfin, parce que du coup, je suppose que ça reste une société assez sexiste, hein, même comme en France, en fait. C'est un peu partout. J'en connais pas, hein, des sociétés où tout est parfait et il y a une égalité parfaite. Mais comment c'est, du coup, de naviguer dans ce monde-là, tu vois, de porter une voix et de lancer des messages sans froisser, sans... Est-ce que tu as déjà eu des problèmes, par exemple, quand tu as fait tes sketchs?
Je pense que les semaines passées, ça fait un mois, depuis que... Enfin, j'ai parlé dans un podcast, et j'ai dit... J'expliquais pourquoi les femmes font silence en cas d'agression, et j'ai dit que j'ai fait silence, quelqu'un m'a agressé, c'est un personnage public.
Ah, mince.
Et ça a fait... Boum, tu vois, les gens me disent, mais pourquoi elle dit ça maintenant?
Ouais, me too, quoi.
Ouais, j'ai dit le nom de la personne, et j'ai dit, c'est la première fois que je le répète, et voilà ce qui s'est passé. Il a tenté de m'embrasser, il a c'était violent et pendant longtemps j'étais dans le déni quoi. Parce que pour assimiler le truc, je me disais que bon, c'est pas ça, je me culpabilisais, je n'aurais pas dû être là et tout, donc je ne voulais pas mettre le nom agression
dessus.
Et pendant longtemps ça m'est resté quoi, ça m'est, et puis c'est pas quelqu'un que j'ai, avec qui je les contacte, que je parle et tout. Donc ça, c'est, j'ai eu vraiment d'un moment où les gens sur internet c'est pour rien. Mais m'ont mis dans toute leur sauce. Tout, c'était violent.
Wow.
C'était violent, vraiment, vraiment. Et ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le fait que j'ouvre ma gueule pour dire les choses. Et ça, c'est bien. Hein?
Oui. Bah en fait, il faut briser, en fait. Mais c'est toi qui y vas, quoi.
Ouais,
tu permets d'ouvrir la voie à d'autres femmes, mais c'est toi qui es au front, du coup.
Ouais, et c'est compliqué. C'est compliqué. Après, c'est... Comment te dire ? C'est... Jusque-là, personnellement, j'ai pas eu d'attaque, j'ai pas eu de... Mais il y a beaucoup d'hypocrisie, tu vois. Tu vois, les gars qui t'approchent, tu vois, qui aiment bien ce que tu fais alors que c'est fou.
Ouais.
Qui prennent de la hauteur sur, ce que, sur ça, qui font genre, qui, comme s'ils savaient un peu plus sur le féminisme que toi. Ouais. Tu vois, qui te demandent est-ce que tu as lu Bourdieu, est-ce que tu as...
qui te testent et qui veulent t'expliquer.
Oui, mais de quel courant féministe ? Je suis comme, mais qu'est-ce que tu me dis là? Mais ok, pourquoi tu veux commencer par le courant féministe alors qu'en tant que femme, je vis ma réalité de c'est femme ça. D'une certaine manière je...
Pourquoi théoriser la chose alors que je vis
Je vis l'inégalité, je vis... Pourquoi ça t'intéresse?
C'est ça.
Tu veux savoir au niveau intellectuel à quel niveau je suis ça, c'est ce qui va valider c'est mon ça. Féminisme pour toi c'est une bataille que je fais dans ma vie personnelle, c'est-à-dire que... Je me bats pour avoir ce droit de tatouer mon corps. Et c'est une lutte par rapport à mon papa qui est chrétien, qui sent qu'il a ce pouvoir sur mon corps en tant que papa et tout. Tu peux pas faire ça. Et en plus, cette histoire de vaudou, nanana, c'est qu'il décide pour toi encore. Et j'ai le droit de dire que je ne veux pas d'enfant. Je dois dire que je vais pas me marier. Mais je me bats à l'intérieur de ma vie personnelle déjà.
C'est ça.
Cette manière de développer les relations avec mes copines, avec les femmes en général.
Oui.
D'être dans ce risque, de ne pas être dans le slut shaming, c'est un effort que je fais. C'est un effort de prendre des reculs par rapport à des choses que je dis. Est-ce que je l'aurais dit si c'était un gars? C'est un travail que je fais sur moi. Pourquoi tu veux savoir si je suis.
De quel courant?
Si je suis libérale, si je suis. Calme-toi. Pour commencer, je suis féministe en Haïti, dans un pays de la Caraïbe. Mon féminisme ne ressemble pas au féminisme de Bell Hooks ou de Simone. Je suis en 2020, je vis en Haïti, dans un pays de la Caraïbe, et je fais partie d'une organisation qui s'appelle Négresse Mahon. Alors, Négresse Mahon, alors c'est les négresses qui ont fui comme les nègres Mahon. Et c'est un concept assez fort, je veux dire... On se rebelle là. Et revenir aux négresses de la colonie qui se sont battues politiquement, quoi. Parce que l'avortement, c'était pour ne pas avoir des enfants dans la colonie. Elles s'occupaient d'aller empoisonner elles-mêmes. Le poison sortait des montagnes et allait sur la table du blanc. C'était pas comme ça. C'est que elles ont politiquement, elles ont contribué à ça. Elles ont pris les armes. Ça m'intéresse. Mon féminisme s'implique politiquement dans la vie politique. Ça s'implique dans la vie politique. Mon féminisme s'implique dans la vie sociale. Qu'est-ce que je fais pour ma communauté? Mon féminisme, dans ma vie avec mon gars, il y a à que moment j'ai compris qui était femme, qui était homme. Jamais on s'est posé cette question-là. C'est quand on décidait des choses, on le décidait parce qu'on a un couple.
Oui.
Et ça, c'est un effort. En 12 ans de relation, c'est un effort, c'est une construction.
Oui. Ça, c'est pas venu comme ça.
Non, c'est une construction. C'est que après, je suis plus proche des afro-féministes, le féminisme des Noirs aux États-Unis, quelque chose. Mais après, c'est différent.
Tu dois un moment te recentrer vers
Oui,
ton.
ce que je fais en
C'est
Haïti,
ça.
c'est quoi la
Ouais.
particularité d'une féministe en Haïti?
C'est clair.
On est face à quel problème? On est un pays sous-développé. On est encore sur cette espèce de on surfe cette espèce de contrôle postcolonial,
Oui.
quoi. C'est-à-dire que quand les gens de la communauté internationale arrivent
Et
et
décide.
décident, oui, voilà, je pense pour les élections en 2011, quand ils ont vraiment ils se sont arrangés pour faire sortir un candidat et faire entrer un chanteur sexiste je ne sais pas comment qualifier ce gars, il est terrible, de le faire venir sur la scène politique, tu vois, ce truc, on dépend, il y a Clinton qui est venu, qui a avoué lui-même qu'il a contribué à détruire la production du riz en Haïti. Moi, en tant que femme, en tant
Ça
que...
te révolte.
Voilà. Parce que mon féminisme ne peut pas ne pas prendre en compte la condition de vie, ma condition de vie, que l'État responsable de ma condition de vie, en fait.
C'est ça, c'est pas quelque chose qui est anodin. Il est responsable, en
Oui,
fait.
oui. Et donc, quand tu viens me demander est-ce que je suis libérale,
Oui, c'est un manque de respect total, en fait, clairement. Mais c'est hyper intéressant et je pense que si un jour je fais un podcast spécial féminisme, je t'interrogerai, mais ce sera bienveillant, ce sera pas en mode tu viens de quel courant, ce sera au contraire pour comprendre le
Oui.
contexte dans lequel tu vis,
Oui.
parce qu'effectivement, le contexte une afroféministe française,
Oui, ça n'a rien à
voilà, c'est
voir.
totalement différent d'une afroféministe africaine,
Africain.
sénégalaise, malienne, enfin. Donc, ouais, je comprends totalement et c'est hyper intéressant et je pense
Même
que...
les femmes noires aux États-Unis, en fait,
Oui.
et parce que c'est vraiment une autre réalité dans la mesure où, tu sais, au moment où les blanches, où les féministes blanches étaient vraiment dans quelque chose par rapport aux hommes, elles voulaient aller travailler, et puis les femmes noires, elles travaillaient déjà, hein.
C'est clair, c'est
Et
clair.
beaucoup trop. Et
Clairement.
beaucoup trop, ce qui fait que le concept famille est différent.
C'est
C'est des
ça.
familles éclatées, en
Ouais.
petites cellules, enfin, c'est des cellules éclatées où tout le monde prend soin de
Ouais.
l'enfant, où ça va d'une maison à une autre, quelque chose dans la...
C'est ton livre.
Ah oui! Ah mais si, vas-y.
J'hésitais à
Si, si. Ah
l'amener.
oui. Alors oui, c'est ça. Mais ça, il faut que je comprenne, parce que moi, si... Quand je regarde ma réalité en tant qu'haïtienne, la réalité des femmes dans mon pays, dans sa spécificité, il faut que je comprenne comment ça se passe ailleurs,
Oui.
dans les communautés noires, afro-péennes
Oui.
et afro-américaines, et te dire, moi, dans ce pays de la Caraïbe, avec une histoire assez lourde, on a été déporté depuis plusieurs années, et on est là aujourd'hui, on est dans une misère bien planifiée.
C'est ça le terme planifié.
Ouais, bien planifiée, et on ne peut pas réfléchir, je ne peux pas réfléchir mon féminisme sans parler de la condition de la vie. Sans parler de ces femmes qui tiennent l'économie de ce pays et qui ne peuvent pas aller vendre au marché en ce moment parce qu'il y a des gangs armés. Il y a des gangs armés qui empêchent les gens d'aller, de se déplacer, en fait. C'est-à-dire que il y a déjà, les gangs armés ont pris possession du marché. Les mairies n'ont pas vraiment. Tu sais, le marché, c'est l'espace où la mairie peut gagner de l'argent, mais non. Les gangs armés. Et ces gangs armés-là, qui prennent beaucoup de place, et les marchands et les gens dans la zone sont obligés de collaborer parce que, quoi, le gars, il est armé. Il ne peut même pas manger, il a une arme à feu. Il a une arme à feu. Et d'où vient cette arme? D'où?
Oui.
Comment il peut recharger cette arme-là?
Si tu remontes le
Si tu
fil.
remontes le fil, tu vois qu'il y a quelque chose qui est bien. Tu vois, et puis, il y a ces guerres hégémoniques sur le territoire où les gangs se battent entre eux pour avoir le monopole des zones. Ça, c'est des choses que l'État cautionne. C'est pas possible.
Donc ça
C'est
c'est
pas, ces gens-là, où ils habitent dans le cul du pays, là, dans ces quartiers-là, ne peuvent pas prendre un avion pour aller en Israël, aller faire des commandes d'armes. C'est pas possible. Faut qu'on arrête. Et du coup, questionner la vie de ces femmes-là qui ont des familles, qui ont des enfants à l'université, qui vendent au marché et qui supportent l'économie. C'est-à-dire, il y a des marchands, il y a de grandes marchandes, des femmes qui font un autre commerce triangulaire en ce moment, qui font la Chine et la Caraïbe et les États-Unis.
D'accord.
Et des fois, qui passent même pas par les États-Unis. Ça fait Chine et Panama et puis Haïti. Ça fait Chine, Panama, Haïti. Mm-hmm. Donc ça, c'est un autre commerce triangulaire. Et ça, c'est important. C'est des dames qui gèrent beaucoup d'argent. Et ça devrait faire du bien à l'économie. Comment ne pas créer des conditions pour ces dames-là de rentrer avec leurs marchandises, de s'installer et de vendre convenablement, alors qu'on sait très bien que l'économie du pays repose sur l'informel. Ça m'intéresse. Et ils mettent le feu dans les marchés un petit peu souvent aussi. C'est des crimes sexistes et politiques.
Oh là là.
Ah non, c'est horrible. C'est horrible.
Oui, donc en tant que femme, tu peux pas juste fermer les yeux, quoi. Non. C'est impossible.
Non.
Et cette réalité est propre, tu vois.
Oui.
Ouais, c'est hyper... Wow.
C'est hyper précis. Ouais. Dans les factories, en Haïti, 64% sont les femmes.
Mm.
Et quand le gouvernement, en plein Covid, a dit oui, il fallait réouvrir les facs, parce que la factory, c'est les bourgeois.
OK.
Il faut réouvrir. On ne sait pas dans quelles conditions les gens vont travailler. 64% de femmes qui pourraient mettre en danger leur famille. On n'a pas de problème, mais dans quelles conditions?
C'est ça.
Comment on va faire? Et donc, moi, je ne peux pas penser mon féminisme sans...
Ouais, sans prendre en compte de ce contexte, Ouais, c'était hyper intéressant. Et tu vois, ça résume bien, parce que je pense que la question de désir, non-désir de maternité, tu vois, c'est lié à ton histoire, au final.
Oui.
Tu vois, et
dans
c'est
quel
important.
Pays, de quel pays l'enfant va naître, dans quel pays?
Exactement.
Qu'est-ce que je donne?
Ouais.
Qu'est-ce que je laisse en héritage?
Exactement.
Quand je pense que ce pays-là, pour lequel je suis en train de me battre, et dans mes écritures en ce moment, il y a Haïti partout. Et je sais que c'est un pays... Ce que je voudrais dans ce pays-là, je ne le verrai pas avant 50 ans.
Ouais.
C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, même mes enfants ne verront pas ce pays dont je rêve. Je ne peux pas donner ça à mes enfants. Ils sont très bien là où ils sont là. Ils sont en train de jouer avec la barbe de Dieu. Ils sont sur les nuages. Ils sont en train de courir là-haut, là, tranquillement. Je fais, non, je les laisse tranquilles.
J'aime beaucoup cette image. En tout cas, tu vois, je vais résumer comme ça maintenant quand on va me dire, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Ils sont bien là-haut avec la barbe de Dieu.
Ils sont en train de jouer.
Alors,
la barbe à papa.
C'est ça. Ah, mais tu sais que je note, c'est des idées que je note, moi. J'aime beaucoup les images comme ça. Du coup, on va devoir conclure. C'était hyper intéressant. Et peut-être que je te reverrai pour parler de féminisme. Parce que je pense que c'est un sujet super important et qu'il faut qu'on ait le prisme, tu vois, de toutes les femmes, en fait. Pas que en France ou qu'aux États-Unis. Et avant de terminer, de t'abandonner, j'ai des petites questions, tant que je serai noire. Je pense que tu es familière avec. J'espère que tu es prête.
Ok.
La première, alors c'est qui ta chanteuse afro-descendante préférée?
J'en ai plein.
Est-ce qu'on a le temps pour en avoir deux?
Deux, ok. Nina.
Ouais. Est-ce que tu as un titre? On va le mettre.
Four Colored. Donc il y a d'autres sites, mais Four Women, c'est pour ça.
Je crois que c'est
Four Colored Women. Ok, et puis Afro. Puis Afro descendante plus récente, quoi. Lauryn Hill.
Nice.
Lauryn Hill. Et en plus, ils ont fait un mix avec un morceau d'elle et Lauryn Hill.
C'est vrai.
Ils ont fait un mix.
Du coup, t'as vu la pièce, qu'il y avait une pièce de théâtre dessus, ou c'était une comédie musicale, je sais plus.
De sur Nina?
De cette chanson, en fait, de ce texte.
Non.
Non?
Non, j'ai pas vu. Après, les artistes chez moi, j'ai une danseuse que j'adore beaucoup. Elle est magnifique. Ouais. Elle dirige une compagnie de danse en Haïti qui s'appelle Expression, qui avait dansé ça dans son spectacle.
Wow.
Et ouais, et je pense qu'il y a une autre artiste aussi qui aime beaucoup Nina. Ouais. Et on a travaillé sur ce morceau dans un spectacle qu'on avait fait ensemble.
Ok.
Et on connaît bien Nina. Hein.
Wow. Ouais, bah oui.
On connaît bien Nina.
Super. Et ensuite, est-ce que tu as une actrice? Du coup, je veux dire, c'est ton corps de métier, c'est toi que tu connais tout ça, qui aborde en fait toutes ces questions de maternité avec classe ou très bien. Ça peut être une maman, ça peut être une femme qui n'a pas d'enfant, ça peut être une femme qui a une relation avec sa mère particulière.
Pour mes actrices, enfin mes artistes, je ne cherche pas la relation avec leur désir de nom.
D'accord.
C'est pas trop un truc qui, enfin, ils ont
que
des
tu
enfants
regardes.
Ou pas. Ça m'intéresse pas. Après, il y a
non,
pas d'actrice, non.
Te marque ou une actrice du coup, si tu enlèves cette casquette, qui te vient en esprit?
Alors, bien entendu. Il y a elle a joué How to Get Away with Murder.
Ah, Viola Davis.
Viola
Davis. Bah, tu vois, elle a une histoire avec
C'est vrai.
Ne voulait pas d'enfant. Enfin, en tout cas, elle a pas eu d'enfant pendant longtemps.
Oui, c'est vrai, elle n'a pas eu d'enfant. Elle a adopté.
C'est ça, tu
elle
vois.
Elle a adopté. La personne que j'aime deux, elles sont réalisatrices en fait.
D'accord.
C'est Shonda Rhimes et Ava DuVernay.
Nice. Ava.
Yeah, Ava. J'adore.
Super choix. Et dernière question. Comment tu finirais cette phrase? Tant que je serai noire.
Oh mon Dieu. Oh.
Wow.
Ok. Tant que je serai noire, je continuerai toujours d'avancer vers mon soleil. Toujours.
Waouh, c'est hyper beau.
Merci.
Ça te donne envie de faire une petite peinture, là, c'est super joli.
Je pense que j'ai un texte où la fille avance, en fait. Elle avance vers son soleil.
Waouh.
Elle avance vers ses eaux.
Ah bah, si c'est un truc que tu peux partager, c'est un texte que toi, tu as rédigé?
Oui, c'est un texte. Tu sais que, bon, en ce moment, je t'ai dit off micro que je suis en train d'écrire plein de trucs en même temps.
Oui.
C'est pas possible, Gaëlle, il faut... Je vais essayer de voir si je peux lire un extrait. Alors... Je ne sais pas si c'est là. Aïe, aïe, aïe. Ok, je pense que je vais pas trouver là où elle dit qu'elle prend sa jupe pour avancer.
Ou sinon, tu me le partages et je l'ajouterai sur Instagram et en description.
Alors, il y a un extrait que de ce texte-là.
Oui.
Où ça ne dit pas ce que je viens de dire là, mais c'est un petit peu, c'est là-dedans.
D'accord.
Il y a un petit truc à trouver dans la solitude, entre soi-même et le vide. Cette musique, ce flottement, cet effarement, ce Big Bang où naît le doute, la colère légitime. La solitude a sa magie, son éclat, son amour propre.
Wow.
C'est une partie du texte.
Merci beaucoup, ça
Merci
conclut très bien cet épisode qui était génial. Alors, j'espère qu'il vous a plu à tous.
Oui.
Et merci. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à continuer le débat, la discussion sur Instagram. Merci beaucoup.
Merci.